Ruquier, le grand oral des grandes gueules.
Grand oral DG que le docteur Peloux, médecin urgentiste à la tête d'une mission sur les phénomènes de radicalisation au sein des hôpitaux. Docteur, bonjour.
Bonjour les amis. Bonjour.
Au début, on a cru que c'était pour dénoncer vos collègues un peu radicaux, ceux qui voulaient mettre papy et mamie dans la cuisine et les autres dans la salle à manger. Mais il ne s'agit pas de ça. C'est une autre radicalisation, Patrick, c'est ça?
Et c'est excellent. Oui, c'est une autre radicalisation, mais je partage beaucoup ce que vous venez de dire. Non, c'est vraiment, c'est plus sérieux que ça. C'est-à-dire, en fait, il s'est pas rien passé, hein. C'est-à-dire que, si vous voulez, depuis les attentats de 2015, même 2012, avec ce qui s'était passé à l'école aux Oratoras à Toulouse, il y a une mobilisation de la nation par rapport au phénomène de radicalisation et de lutter et d'anticiper les choses. Il y a eu ce qui s'est passé avec la décapitation de Samuel Paty, qui a été à nouveau un coup à la République, à ceux qui sont en première ligne sur l'éducation, la culture, c'est-à-dire les enseignants, et ça a été un Big Bang. Il y a donc une mobilisation dans les ministères pour justement faire de la prévention de la radicalisation, savoir où on allait, savoir comment éviter des débordements. Je pense que c'est tout à fait raisonnable, notamment, et ça s'inscrivait en droite ligne sur ce qui s'est passé après les attentats de 2015, d'accord ? Parce que la société ne pouvait pas rester les bras croisés par rapport à un phénomène qui pouvait, et on sait très bien que dans, notamment chez les frères musulmans, il y a des mouvements internationaux qui se disent on doit aller à la conquête de quelque chose. On sait très bien ce qu'a dit par exemple Erdogan quand il a dit on arrivera à la conquête de l'Allemagne par la démographie. Bon, donc on pouvait pas laisser faire ça. Bon, et donc des ministères ont fait énormément de travail. Je pense évidemment à tout le travail qu'a fait Blanquert sur le ministère de l'Éducation nationale, mais ça a été aussi le cas sur le ministère de l'Intérieur et d'autres. Et la santé a fait un travail qui était important. Il y a eu des directives, il y a eu des choses qui ont été faites. Et là, en fait, le ministre de la Santé, après en avoir parlé avec lui et après avoir échangé aussi avec Monsieur le Premier ministre, il y a eu une volonté de réfléchir à la prévention, à la radicalisation, à ce que ça voulait dire.
Comment elle se traduit et
comment elle se manifeste
et comment ça se voit et autres.
Ah, ça, alors c'est évidemment il y a plusieurs mots. Alors on est au début du rapport et du travail, d'accord. Donc c'est un travail considérable. Il y a bien sûr le lien entre les malades et le corps médical, d'accord. Donc ça c'est important, c'est-à-dire j'ai envie de dire tout ce qui va de la procréation à la mort, c'est-à-dire de la naissance à la mort, avec évidemment des actes de prosélytisme concernant les faits religieux dans l'hôpital. Vous savez que l'hôpital, malgré la loi 1905, s'était inscrit sur la présence de ce qu'on appelle les aumôneries à l'intérieur de l'hôpital. Bon, il faut une réflexion là-dessus pour savoir comment encadrer, comment au moins savoir qui on met au niveau de ces aumôneries, quelle que soit la religion d'ailleurs, hein, premièrement. Deuxièmement, il y a, et vous en êtes fait l'écho à plusieurs reprises, ces hommes qui refusent que leur femme soit examinée par un homme, alors que quand vous êtes médecin, vous êtes ni homme ni femme, vous êtes médecin, d'accord. Et il y a eu des violences, encore une récemment, avec un gynécologue qui s'est fait tabasser, ou un psychiatre, on se souvient aussi d'un psychiatre qui s'est fait agresser. Donc c'est ça. D'autre part, il y a évidemment les signes ostentatoires par les personnels qui ouvrent à certaines interpellations. Je suis pas là en train de dénoncer, c'est juste que ça interpelle.
Qu'est-ce qui interpelle ?
Ça interpelle le port du voile à l'hôpital et il va y avoir, hein, ça évidemment, va y avoir un débat avec les doyens des facultés de médecine, puisque vous savez que les signes dans l'université, les signes ostentatoires sont permis. Oui, mais justement, l'hôpital est à la frontière entre l'université et la laïcité, et ça interpelle. Et il y a en effet, ça a commencé à nous remonter parce qu'on va travailler sur des exemples concrets. Alors, c'est pas attention, hein, on n'est pas en train de dire que c'est une grande débâcle et un grand débordement. Les choses sont quand même très encadrées, très surveillées. C'est juste de savoir comment est-ce qu'on évolue et comment est-ce qu'on arrive à éviter un débordement.
Gilles William.
Alors, d'abord, j'ai noté ta propre évolution à partir de Charlie. toi-même. C'est-à-dire que j'ai... Tu n'étais pas le même pour t'avoir connu avant. Avant et après
ça,
Charlie.
Ça aurait été difficile de ne pas changer après ce que j'ai vécu.
Bien sûr, non mais bien,
c'est... bien on sûr. On est bien d'accord.
Alors maintenant, je m'adresse à l'urgentiste que tu es. Est-ce que tu ne notes pas, est-ce que ce n'est pas un lieu particulier de la radicalisation, ce qui peut se passer de temps en temps aux urgences ou pas?
Par exemple, avec des exemples concrets alors. Quoi par exemple?
Je sais pas, est-ce que je pose une question au premier degré, est-ce qu'il y a pas des incidents particuliers et encore plus importants dans les urgences où on sait que c'est un lieu privilégié souvent où on passe aux extrémités.
Le travail aux urgences, on soigne tout le monde tout le temps et H24 et ça c'est l'honneur de notre pays. C'est-à-dire qu'il y a d'autres pays, je pense par exemple aux États-Unis, où la première chose qu'on demande, c'est évidemment la carte d'assurance ou la carte bancaire. Nous, c'est pas le cas, on soigne tout le monde. Donc déjà, ça c'est important. Ce que tu signales, c'est en effet parfois, d'accord, sur certains quartiers qui sont en fait très communautarisés, des actes qui concernent où il y a une volonté de choisir son médecin, d'influencer les soins. Bon, c'est très marginal, mais en effet, ça pose un certain nombre de problèmes et de questions, et il faut qu'on arrive à donner des éléments. Et quand on parle de faire le point sur et de la prévention sur la radicalisation, c'est indissociable de la laïcité. Et là, je voudrais revenir juste un instant sur ce qui fait la laïcité. Parce qu'en effet, et ça c'est très vexant pour des gens, c'est de voir que notamment des partis de gauche rejettent la laïcité au titre que la laïcité serait une oppression. La laïcité n'est pas une oppression. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en 1905, quand la laïcité a été lancée, et ceux qui ont le plus porté la laïcité, c'était justement des médecins. Parce que justement, ils disaient, s'il y a la laïcité, on s'enlève du dogme religieux, donc qui était le plus prégnant à l'époque, c'était évidemment le catholicisme en France. C'était quelque chose qui a permis de libérer la science. Et ceux qui ont le plus voté à l'Assemblée nationale la loi sur la laïcité, c'était les médecins. Parce que les médecins savaient avec une déconnexion de la religion, on soignait mieux. Moi, ce que je veux dire à ceux qui font acte de communautarisme, notamment dans les urgences, en nous empêchant de faire des soins ou en choisissant, etc., ils se mettent souvent en danger et ils retardent les soins. Et c'est là où la laïcité, à grand cœur, est généreuse. Parce que on tolère absolument toutes les religions en France, mais il ne faut pas, justement, que les religions reprennent le pas sur la laïcité pour nous empêcher de travailler.
Didier ?
Moi, quand je vous écoute, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est Patrick Peloux, il est médecin combien de temps dans la semaine aujourd'hui? Est-ce qu'il est encore médecin?
Ah bah oui, je vous remercie. Bah, venez, je suis de garde ce soir, venez. Non, mais venez, vous allez voir.
J'ai pas de doute, mais ça...
Écoutez, je vais vous dire. J'ai accepté cette mission parce que j'ai mes meilleurs amis qui sont morts sous les balles de personnes radicalisées et d'islamistes. D'accord. J'aurais bien mauvaise conscience de ne pas continuer ce combat, qui est un combat pour notre pays, pour notre nation, pour la République, pour toutes les personnes. D'accord. Je suis un bien humble soldat là-dedans. D'accord. Mais je dois le mener. Voilà. Je dois le mener. Et je remercie vraiment les pouvoirs publics de continuer ce combat et de ne pas mettre sous le tapis les problèmes. Parce que problème, il y a. Il y a un problème dans l'éducation nationale, il y a un problème avec des écoles coraniques qui se montent un peu partout, mais comme les écoles catho, comme les écoles proches de Civitas, etc. Donc il y a un problème. Nous sommes l'un des rares pays au monde à dire que la laïcité est importante. Il y avait
c'est
d'autres
pas un
pays.
Combat perdu d'avance.
Non.
Parce que Patrick, on va vous répondre, mais regardez ce qui se passe dans les pays anglo-saxons.
Oui,
on
mais
se pose
non.
plus la question du voile, on se pose plus la question des signes religieux. Il y a que la France qui est arc-boutée là-dessus.
Mais justement, c'est ça qui est beau, c'est que nous sommes un pays qui est arc-boutée là-dessus.
Oui.
Nous sommes un pays qui a besoin d'avoir la liberté de tout à chacun. Nous sommes un pays des droits. Nous sommes un pays, nous luttons contre toutes les formes d'oppression, que ce soit le racisme, que ce soit l'antisémitisme, que ce soit l'homophobie.
Oui, aussi où les actes antisémites explosent, où le terrorisme islamiste a fait plus de victimes en France que partout en Europe. Donc il y a aussi des questions. Est-ce qu'on a les bonnes réponses?
Est-ce qu'on est une cible?
On est utile.
On est une cible parce que
on est une cible. On est une cible parce que justement nous sommes un pays qui faisons vivre tout un chacun ensemble. Nous sommes un pays de vivre ensemble. Nous sommes un pays de tolérance. Nous sommes un pays qui doit être droit quand on croit que nous sommes un petit pays. Non, nous sommes un grand pays par les idées. D'accord, oui, économiquement, ça s'est un peu cassé la figure, mais nous sommes un grand pays sur les idées.
La question d'Olivier, elle est pas. Elle est intéressante. On peut pas dire que la laïcité un petit peu rigide à la française ait obtenu des résultats extraordinaires. Permets-moi de te dire que, en ce qui me concerne, j'ai peut-être tort, hein, j'affirme pas, mais moi, en ce qui me concerne, je serais moins pour, par exemple, faire la guerre au voile, hein, et laisser un petit peu tranquille certains musulmans qui sont parfaitement pacifiques même avec un voile, mais par contre j'aurais tendance à être beaucoup plus intransigeant sur le passage aux frontières, tu vois, je voudrais plutôt arrêter les frais sur ce plan-là. Donc la question de la laïcité, elle n'est pas hérétique. C'est un vrai problème parce qu'on n'a pas spécialement à se féliciter de nos résultats.
Les résultats, ce n'est pas des résultats la semaine dernière, c'est les résultats sur un siècle, sur le progrès culturel, social, éducatif, scientifique qu'il y a eu en France grâce à la laïcité. Faut quand même se rappeler, hein, quand d'un coup vous aviez la santé qui était aux mains de la religion, et ben je peux te dire que accoucher dans la douleur, c'était une réalité.
Par rapport au phénomène d'aujourd'hui de la radicalisation islamique, je suis pas sûr que cette encore une fois, je suis même pas sûr de ce souhait, mais je ne suis pas sûr que l'intransigeance laïque soit finalement un bon remède. Non, mais
docteur Marty,
replace-toi là où on était il y a quelques années. Moi, je suis pas très. Il y a 30 ans, j'ai connu des services où il y avait des crucifix dans les chambres, dans les hôpitaux. Il y avait encore des services où il y avait une forte pression de la religion catholique, comme tu en parlais tout à l'heure.
Et alors ?
Ce qu'il faut voir, c'est que.
Et alors ?
Non, mais ce qu'il faut voir, si tu veux, c'est deux choses. Un, l'hôpital et en particulier les urgences sont le réceptacle de tous les maux de la société.
Tous.
Donc, s'il y a des gens fondés à dire ce qui se passe et à agir sur ce qui se passe, c'est d'abord les médecins et en particulier les médecins qui travaillent aux urgences. Ensuite, tu as une fonction, il en parlait tout à l'heure, du médecin quand il revêt la blouse, c'est précisément justement de dire « je ne juge pas l'autre et tout le monde est égal par rapport aux soins ». C'est l'évidence, c'est l'évidence même. Mais on se doit de bien voir que, à la fois dans nos cabinets, aux urgences, à l'hôpital, on voit des dérives qui de plus en plus se présentent. On voit des gens qui veulent adapter le soin à leur mode de pensée. Et ça, c'est plus possible. La mission dont il a la charge, c'est une mission énorme.
D'avoir retiré les crucifix il y a 30 ans, ça ne les protège pas, ça, aujourd'hui. Hein. C'est pas parce que tu as retiré les crucifix des chambres d'hôpitaux il y a 30 ans, empêche le gynécologue de se faire casser la gueule.
C'est parce que votre croyance religieuse, quelle qu'elle soit, elle vous concerne entre vos oreilles.
Oui.
C'est votre sphère privée. Moi, j'ai vu l'expression qu'on a laissé faire à l'hôpital de religions que vous connaissez même pas, de gens qui étaient de cultures différentes de nous et qui, au moment du décès de leurs parents, avaient besoin de l'exprimer de manière différente. Et vous savez très bien qu'il y a des cultures tout à fait honorables d'Afrique qui font des cérémonies. On laissait faire. Ça, c'est la richesse du service public. Là où ça ne va pas, c'est quand d'un coup, vous avez une religion qui arrive et qui vous prend tout le service et qui méprise tous les autres malades pour faire leur rite. C'est pas possible, voyez. Et c'est là. En fait, la laïcité, c'est la tolérance. C'est-à-dire que vous êtes dans des strates de société qui sont tolérante et qui apprennent à vivre ensemble. Là où ça va pas, c'est quand en effet, vous avez dans certains quartiers des communautés qui prennent le rythme sur une autre.
Une dernière question, s'il nous reste une minute. Jean-Luc Mélenchon estime qu'à la prochaine présidentielle, comme aux précédentes, il y aura un attentat, un événement, un fait divers va bouleverser les choses. Tout est écrit et qui instrumentalise la campagne politique. Il a cité notamment les attentats 2012, ceux de Mohamed Merah.
Oui.
Quelle est votre réaction ?
Mais je sais pas ce qu'il veut dire par là, sincèrement, parce que ces attentats visent de toute façon à déstabiliser politiquement le pays, mais même en 2015, d'accord ? Et même le dernier en date avec les policiers assassinés, il y a une entreprise de déstabilisation et de monter le pays, nous, les uns contre les autres. Ce qui est formidable, c'est que les Françaises et Français sont pas tombés dans le panneau. On aurait pu craindre, après les attentats, notamment du 13 novembre, que vous ayez des exactions, que vous ayez des punitions collectives qui se fassent, ou des jacqueries, d'accord ? Ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que nous avons un pays, et nous avons un pays qui sait réagir, qui sait la nuance,
donc les Français
et qui
font la part des choses.
Ils font la part des choses, et c'est comme ça, mais là, il y a une partie qui est à nouveau importante, c'est la montée notamment de l'islam politique en France, et ça, faut pas qu'il gagne. Et ça, faut pas qu'il gagne.
Merci Patrick Peloux, on verra donc le résultat de cette mission sur la radicalisation radicale. Merci d'être venu.